venez décoller avec les petits aviateurs.
3, 2, 1,
décollage!
12 jeunes, issus des collèges Pont-Jumeau et Rosa Parks, se sont rencontrés en novembre et décembre à la Ligue de l'enseignement pour faire un projet radio lors des mercredis scientifiques sur l'environnement aéronautique toulousain. Nous avons réalisé une visite à Aeroscopia, rencontré l'association des ailes anciennes. Cet atelier a été financé par le conseil départemental de la Haute-Garonne en partenariat avec Média Commun Occitanie.
Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Gérard.
Jean-Pierre.
Quel est votre métier et depuis quand faites-vous ce métier ?
Alors, je suis calculateur de structure, c'est-à-dire que je justifie l'avion, en quelque sorte, mais du point de vue résistance des matériaux. Et il y a 37 ans et demi, j'ai passé 37 ans et demi sur ce programme.
Dans le, j'ai une double formation, c'est une formation d'électronicien. Et j'étais embauché comme tel au sein d'aérospatial, comme s'appelait l'entreprise à l'époque. Mais j'avais également une formation de fabrication mécanique et qui m'a servi tout au long de ma carrière. C'est-à-dire que j'ai exercé en tant qu'électronicien et en tant que mécanicien aussi.
Où travaillez-vous ?
Donc à Airbus, évidemment. Bureau de calcul qui est une partie du bureau d'études d'aérospatial au départ et d'Airbus ensuite.
D'accord. Au tout début, c'était aérospatial, puisque c'était en 79, dans les années 79-80. C'est devenu Airbus, effectivement. J'ai démarré dans un laboratoire de métrologie. C'est dans ce laboratoire où on étalonne et on répare tous les appareils de mesure qui servent à identifier les grandeurs physiques de l'avion ou des équipements qui sont associés. Par la suite, je suis allé dans un centre d'usinage et de montage des pièces mécaniques. L'ensemble s'appelait le mât réacteur, c'est la pièce qui tient le réacteur à la voilure. Voilà, et c'est à Saint-Éloi.
Quel est votre parcours ?
Bon, on a déjà un peu parlé, hein, puisque le parcours, je suis rentré donc technicien pour faire de la modélisation par éléments finis. Il a fallu apprendre quelque chose qui ne s'apprenait pas à l'école. Donc, j'ai d'abord suivi des cours pour pouvoir exercer le métier. Et puis ensuite, j'ai progressé. Et je suis devenu responsable des modèles éléments finis et j'ai encadré pas mal de stagiaires sur ce sujet-là. Et puis, responsable des réparations jusqu'au dernier jour de l'avion, c'est-à-dire en 2003.
Mon parcours est un peu différent. J'ai démarré des études par la force des choses parce que dans la région où j'étais, il n'y avait que de la fabrication mécanique. Donc j'ai passé mon bac de fabrication mécanique, mais ma passion c'était l'électronique. Donc j'ai un peu arrêté mes études et je suis allé travailler. Quelques temps après, j'ai repris les études. Et comme du côté de Perpignan, on est un peu têtu, donc j'ai repris des études d'électronicien. Voilà. Donc, et j'ai été embauché à Aérospatial en tant qu'électronicien.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ?
Alors ça, c'est difficile à dire parce que tout d'abord, je faisais un peu d'aviation avec un copain qui, lui, passait son brevet de pilote, comme il était assez peu argenté. À 4, on allait avec lui, et on payait chacun notre part. Comme ça, il a pu faire son brevet de pilote, et ensuite, il a été ici à Airbus, il convoyait les ATR. Puis ensuite, je cherchais du travail, mais pas spécialement dans l'aviation. Et puis le créneau s'est développé, et je suis rentré à l'aviation. Mais c'était un peu au hasard. Pourtant, j'aimais ça.
Donc, pour ma part, lorsque j'ai repris les études d'électronicien, à la fin des études, on passe un examen et dans les membres du jury, il y a eu mon futur patron qui était aérospatial à l'époque. Et il m'a proposé donc de rentrer à aérospatial. C'était dans les années 79. La passion est venue après, parce qu'elle y est. En deux mots et très rapidement, c'est une entreprise qui est attachante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut y développer les compétences, ce qu'on veut faire dans la mesure où on s'implique et on est curieux. Ça, c'est important. Et la deuxième, c'est que c'est une entreprise qui n'a jamais, même dans des périodes difficiles, mis des personnes à la porte. Ça, c'est remarquable et rare. Voilà.
Je voudrais ajouter que c'est une entreprise où on peut évoluer dans le même métier ou dans d'autres métiers ?
Dans d'autres métiers.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Aujourd'hui, une interview. Et on essaye de transmettre notre passion, justement. Tu évoquais la passion tout à l'heure. On essaye de transmettre cette passion qui nous anime à des jeunes générations. Voilà.
C'est surtout, pour ma part, j'ai travaillé sur un avion mythique. C'est obligatoire que j'en fasse profiter tout le monde. Quoi. J'ai rejoint l'aérothèque justement par l'ancien président qui avait été un collègue à moi et qui, comme j'avais ces compétences-là, m'a tiré pour aller rejoindre l'association.
Alors, juste pour compléter, l'association, vous avez posé que fait l'association ? L'association est la conservation du patrimoine Airbus Toulouse aujourd'hui. Airbus, pas le grand Airbus international, mais uniquement les usines de Toulouse. L'aventure a démarré en 1920 avec une personne qui s'appelait Émile de Wattine. Donc Émile de Wattine a été le chef de production de la Teco Air, très rapidement, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps, était le chef de production de la Teco Air et il fabriquait des Samson 2A2. En 1920, ils ne se sont plus entendus et de Wattine est parti et a monté sa propre entreprise. Et il a commencé à faire son premier avion qui s'appelait D1, D pour de Wattine et 1 parce que c'était le premier. Et il l'a fait au chemin de Saint de Serpe, c'est-à-dire l'usine de Saint-Éloi. C'est le site historique d'Airbus Toulouse aujourd'hui. C'est vraiment l'origine d'Airbus Toulouse. Et donc cette association, elle est là pour conserver la mémoire d'une première partie. Elle dispose pour ça des archives, des documents, des pièces, des éléments d'avion. Récemment, on a acheté un tronçon de D338 qui fait à peu près 10 mètres de long. C'est le seul un avion qui faisait 30 mètres d'envergure. Donc ça, c'est le patrimoine. On essaye de construire le patrimoine. La deuxième activité de l'association, c'est de ce qu'on fait aujourd'hui et dans d'autres écoles, c'est de faire partager la passion, l'histoire, le savoir également, lorsqu'on les matériaux. Donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième élément, c'est qu'en interne, on a des équipements qu'on fait revivre, c'est-à-dire, par exemple, un simulateur de maintenance à 340. On a acquis un simulateur de corvette qu'on va reconstruire. Et avec une association amie qui s'appelle Virtuelle, on est en train de redonner vie au simulateur Concorde. Ça rejoint Gérard dans le domaine. C'est le seul simulateur qui existe en France et qui occupe visible au musée Aéroscopia, ce que vous avez dû pouvoir voir. Il était actuellement qu'illuminé, il n'est pas actif. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'asseoir au poste du siège pilote, copilote ou ingénieur navigant et de le faire marcher. Donc ça demande des compétences, on retrouve les compétences, mécanicien, électronicien, mais de communication aussi. Et ça me fait un peu partie aujourd'hui.
Comment s'est passée votre première journée à ce poste ?
Ça fait longtemps. Alors, première journée, c'était l'embauche à la villa qu'il y a à Saint-Éloi, qui n'y est plus d'ailleurs. On était tous embauchés à cet endroit, à cette époque-là. On signait notre papier, qui était une vulgaire feuille signée, et hop, on partait directement au travail. Et alors là, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été embauché par le chef de département, le chef de service et son adjoint. Alors j'avais remarqué que son adjoint était bizarre. Le chef de département me dit « Faites-moi une ligne, écrivez-moi une ligne, en minuscule, en majuscule. » Bon, j'étais un peu troublé, mais j'ai écrit ma ligne, mes deux lignes. Il prend la feuille, il la montre au chef de service, il dit « Ça vaut combien ?»« Oui, oui, très bien. Vous êtes embauché. » Voilà mon test d'embauche. Mais j'ai compris pourquoi après. Comme je vous ai déjà dit, j'étais embauché pour faire de la modélisation par éléments finis. Cette modélisation, à cette époque-là, se faisait à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur, ça n'existait pas. Donc, on avait des grandes feuilles avec des colonnes. De rentrer dans ces colonnes, les valeurs intéressantes pour le travail qu'on devait faire. Et cette feuille était donnée à un service. C'était des jeunes dames qui, la plupart, étaient sourdes et muettes. Comme ça, elles n'étaient pas gênées par le bruit que faisait le clavier et la perforation des cartes. C'était des cartes perforées. On faisait des trous à des positions bien précises. Et donc j'ai compris pourquoi il fallait que j'écrive ma ligne. Parce que j'ai donné 80 colonnes, ça s'appelait. J'en ai rempli pendant peut-être 3 ans, hein, tous les jours. Je faisais que ça. Enfin, je faisais que ça, en rapport des plans et tout ce que des calculs qu'il fallait faire pour avoir la bonne valeur. Donc voilà. Et pour finir, l'adjoint au chef de service, que j'avais trouvé bizarre, un jour il me convoque avec un collègue. On était trois à la table, comme ça, on parlait, et tout d'un coup, il s'est endormi, devant nous, il s'est endormi. Il avait une maladie, on l'a su après, et il pouvait s'endormir n'importe quand, n'importe où. Je vous garantis que ça m'a fait bizarre. Voilà la petite anecdote.
Et qu'avez-vous ressenti lors de votre premier vol?
Le souvenir est nettement moins précis, peut-être plus récent dans le temps que celui de Gérard, le premier jour d'embauche. Moins précis, l'embauche a démarré, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai présenté mon projet de fin d'études. Dans le jury, il y avait mon futur employeur. Donc, l'embauche s'est faite pratiquement là, si je puis dire, sans que je le sache. C'est après que je l'ai su. Quand je suis sorti de l'examen, j'ai un des profs qui assistait au jury qui me dit « Tu devrais prendre contact avec monsieur Robert, parce qu'il est intéressé par ta candidature. » Donc, c'est ce qui a été fait. Et le premier rendez-vous, je l'ai eu au laboratoire de métrologie, parce que ce monsieur était le responsable du laboratoire de métrologie d'aérospatiale. Donc, j'ai commencé à arriver. Et lorsqu'on arrive et qu'on est complètement étranger aux services et aux procédures, on est un peu perdu. J'avoue qu'on se laisse balloter à droite à gauche. Et il y a déjà les formulaires à remplir avec les ressources humaines, ce qu'on appelle les RH. Donc ça a été une journée de, je dirais, entre guillemets, de paperasse, puisqu'il faut remplir un certain nombre d'engagements. Il y avait un peu plus qu'une feuille dans ton époque. Ils avaient déjà complexifié la procédure. Et donc la journée s'est passée comme ça. On a touché également, ce que Gérard n'a pas dit, c'est qu'au niveau de la production, parce que moi c'était plus production, c'était pas bureau d'études, on pointe. C'est-à-dire qu'on avait un petit carton et on passait devant une machine et quand vous rentriez, on posait le carton qui mettait l'heure d'arrivée, le jour et l'heure. Et quand vous partiez, pareil. Donc ça s'appelait le pointage. Voilà. Donc c'était toutes ces procédures qui ont été expliquées. Alors à la fin de la journée, vous avez des informations qui arrivent énormes. Pas mal d'informations, on en oublie quelques-unes, mais on est vite rappelé à l'ordre. Voilà. Donc voilà à peu près mon premier jour.
Comment s'est passé votre premier vol ?
Enfin, c'était mon premier vol, c'était un vol avec mon copain, donc ça comptait pas. Parce que je ne voulais pas dire, mais on faisait quelques bêtises en avion. Voilà. Alors, mon premier vol en tant que technicien, on va dire. Alors, c'est un premier vol qui a été un peu ballotté, parce que bon, c'était un vol Concorde, puisque j'étais sur cet avion-là. Alors, on était parti pour 4 heures de vol. Et on était au sud de l'Irlande et tout d'un coup, un moteur en panne. Bon, il y en a 4, donc il en restait 3 quand même. Et là, on est rentré sur 3 moteurs à Mach 0,8, parce que la procédure veut qu'on ne peut pas aller en supersonique. Et donc, on s'est ennuyé pendant... Oui, parce que c'était un vol d'essai, donc il y avait des enregistrements et tout. Mais là, les enregistrements avaient été coupés, puisque ça ne représentait plus le vol qui était prévu. Quoi.
Oui.
Voilà, c'était mon premier vol sur Concorde.
Pour moi, ça a été un premier vol passager. Enfin, si j'exclus les avions de tourisme qui étaient à Lasbordes, où j'ai volé dessus, avec pas en tant que pilote, en tant que passager. Par contre, c'était un collègue qui passait son brevet et le moniteur qui avait envie d'en découdre. Et il valait mieux ne pas avoir trop mangé l'après-midi quand il commençait à faire les décrochages, parce que c'est adorable. Il y en a qui payent des manèges. C'était à la grande rue Saint-Michel à l'époque où il y avait la foire. Là, c'était pas la peine d'y aller. Et c'était des vols qui étaient très agréables parce qu'on a la sensation de voler. Après, lorsque les premiers vols, pas en tant que technicien, mais en tant que passager sur des grands avions, on n'a plus de sensation, on a juste l'accélération au départ et le freinage, et puis le reste, c'est comme maintenant, assis sur le fauteuil. Quoi. C'est aucune sensation. Par contre, les petits avions, c'est pas mal. Voilà.
Oui.
Je vais modérer un peu ce qu'ils viennent de dire parce que à une certaine époque, j'allais à Nantes régulièrement. Au moins une fois tous les mois, au moins, pour aller justement m'occuper de réparation des levons de Concorde. Et en principe, on y allait avec Corvette, mais cette semaine-là, Corvette n'était pas disponible, et donc on est parti avec la ligne, c'était un ATR. Et quand on est arrivé à Nantes, il faisait 100 km à l'heure devant, de travers. J'ai pas eu peur parce que j'avais confiance, mais... quand on se met dans l'axe de la piste, que l'avion est comme ça, il y a un problème. Parce que l'avion, il ne peut pas atterrir comme ça. Hein. On savait qu'il avait des compétences, c'est sûr. Et au dernier moment, effectivement, il a redressé l'avion et s'est bien posé. Mais c'est chaud. Quand même, hein. C'est chaud. Et surtout, avec 100 km à l'heure de vent, l'avion fait ça, hein, sans arrêt. Et bon, il avait beau le contrer, on avait l'aile qui passait à 30 degrés au moins, comme ça. C'était chaud.
Quel est votre plus beau pays que vous ayez survolé et où votre plus beau souvenir dans l'exercice de votre métier?
Bon, le plus beau pays, c'est la France, il n'y a pas de problème.
Ça c'est dit.
Voilà. Je dirais que oui, la France, l'arrivée sur Nantes avec tous les lacs qu'il y a, c'est très 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 joli. Avec un bon soleil là, c'est très très joli. Je dirais que je suis allé en Angleterre deux fois et là c'était pas terrible parce que il y avait brouillard. Voilà.
Plus beau que j'ai comme souvenir, c'est le survol des Alpes. Avec un petit avion, ce qui est un Beechcraft, c'est comme la Terre, un peu plus petit que la Terre. Et on vole pas très haut, on vole dans les 5000. Et ça permet de voir vraiment le paysage et de survoler les cimes. Et ça, c'est super.
Et le plus beau souvenir dans votre métier?
Je veux dire que c'était le dernier vol de l'avion. Dernier vol où j'ai participé, quand l'avion nous a été rendu par Air France, et c'était le 23 juin, je crois, 2003. Et donc cet avion est revenu à Toulouse, c'est celui qui est exposé à Aéroscopia. Donc,
je confirme, lui était dedans, moi j'étais au pied pour le voir, parce qu'il y avait énormément de monde autour des pistes pour voir le dernier vol, et dont j'en faisais partie, effectivement c'est un moment intéressant. Après, dans la vie professionnelle, il y a également, ça dépend des projets, ce que l'on mène, et je pense que l'on voit aboutir un projet, notamment, je pense au dernier, soit la certification sur une norme du site de Saint-Éloi, ou le dernier bâtiment qui a été construit, où je me suis occupé. Lorsqu'on rend les clés, si je puis dire, du projet ou du bâtiment, c'est quand même un moment de satisfaction, parce qu'il y a beaucoup de travail accompli derrière, il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi et qui ont aidé à obtenir ce résultat. On n'est jamais seul dans une équipe, et le devoir accompli, la satisfaction du devoir accompli me motive beaucoup.
Sur ce sujet-là, je dirais que quand on a remis l'avion en vol après l'accident...
Ça aussi, chapeau.
Avez-vous déjà eu peur?
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas de la peur, mais c'était chaud. Donc, il y avait plus de bruit dans l'avion. Hein. Plus personne ne parlait. Hein.
Tout le monde avait peur, quoi.
Je sais pas de la peur, parce que... au contraire, quand on a peur, on crie.
C'est de
là,
la crainte.
Là, c'était calme. Hein. Tout le monde écoutait les bruits.
On est concentré.
Voilà, on est très concentré. On a entendu le train sortir, donc c'est bon, il est en place. L'avion était comme ça, hop, il le met comme ça.
Dans le cadre de la vie professionnelle, non, j'ai pas été confronté à quelque chose qui pouvait amener ce sentiment. Voilà.
De quand date votre dernier vol? Et pouvez-vous nous le raconter?
Alors, mon dernier vol, donc, c'est le dernier vol du Concorde, quand il est rentré à Toulouse, quand il nous a été redonné par Air France. Donc, on a décollé de Charles de Gaulle, à Paris. On est allé faire un petit tour au-dessus de l'océan, à Mach 2. On est revenu, on a survolé les Pyrénées, et on s'est mis en phase pour atterrir, quoi. Et le commandant de bord, qui prenait sa retraite ce jour-là aussi, qui est de Castres, il nous dit on ne peut pas se poser, il y a des vaches sur la piste. Ça, c'était le moyen de faire un tour de plus. Tout s'est très bien passé, on avait été très bien reçus par Air France. C'est un beau souvenir.
Et vous?
Le dernier vol, c'est un vol commercial, c'est d'Orly. Avec une société low cost. On s'est préparé à embarquer. C'était vers 6h, 18h le soir. On est monté sur l'avion. Au bout d'un moment, on voyait que personne ne s'activait à démarrer l'avion. Il y a le steward qui est rentré, qui a dit « Bon, eh bien, il faut débarquer, il y a un incident technique et on a tous débarqué. » On est revenu en salle d'embarquement et on y a attendu 2h30, 3h. Sans aucun élément pour savoir quand c'est qu'on partait ou pas. Et le vol s'est terminé, donc c'était Orly-Toulouse, et donc ça s'est terminé avec 2 ou 3 heures de retard sur Toulouse, voilà.
Comment un avion fait-il pour décoller ?
Un avion, pour décoller, il faut qu'il aille à une certaine vitesse. Parce que la vitesse de l'avion, l'écoulement de l'air sur la voilure, fait que ça va le soulever. Et donc, quand c'est suffisant, il peut lever la roulette avant, on appelle ça la roulette, mais bon, le train avant. Et alors, à ce moment-là, il y a encore davantage d'air qui produit l'effort aérodynamique, et là, il décolle. Mais il est toujours moteur à fond, hein. C'est la phase la plus difficile et la plus délicate pour un avion. C'est là que les accidents sont les plus importants, parce qu'il est plein de kérosène, il ne faut pas oublier.
D'accord.
Préférez-vous les avions du passé ou ceux d'aujourd'hui ?
Ah, ça c'est une question, il ne fallait pas la poser cette question. Non, il est certain que les avions d'aujourd'hui sont beaucoup plus... Comment dire, ils sont meilleurs du point de vue technique, c'est sûr, du point de vue confort, c'est sûr. Mais, alors, je parle en tant que, pas un pilote, mais quelqu'un qui a voyagé sur un avion, un petit avion, hein, c'était un rallye à l'époque, hein, quand j'ai volé avec mon collègue, mon copain. Là, on ressentait tout. On ressentait un jour le vent d'OTAN, ça faisait comme ça l'avion. Hein, et, alors, ça avait un certain charme. Mais, bon, aujourd'hui, c'est autre chose. Alors, pour choisir, non, je ne sais pas choisir. Je ne sais pas.
D'accord. Et vous ?
C'est très difficile, effectivement, de choisir. Si on regarde, si on s'intéresse aux avions du passé, il y a beaucoup d'éléments qui, aujourd'hui, sont employés avec des méthodes beaucoup plus sophistiquées en termes de conception et de fabrication. Mais je dirais que les 90% des éléments qui permettent de voler aujourd'hui étaient déjà connus sur les anciens avions. Alors appliquer et fabriquer beaucoup plus difficilement parce que les métiers étaient moins automatisés, moins informatisés. Et lorsque je vous ai évoqué le fait qu'on ait récupéré un tronçon de D338, c'est de 1937 quand même, c'est un peu, ça commence à dater. Et quand on regarde les techniques de l'époque, c'est merveilleux, c'est vraiment passionnant de voir comment les constructeurs à l'époque agençaient les éléments. Alors c'est pas un avion qui volait aussi haut que les Airbus aujourd'hui ou les Boeing ou Concorde qui volait pratiquement à la double de l'altitude d'un Airbus, mais n'empêche, il y avait des fenêtres, on pouvait pas mettre les mains dehors, mais pas loin. Ça volait au maximum, il volait à 4000 mètres d'altitude, dont les structures étaient différentes. Mais je pense qu'on y retrouve en tant que passion, aussi bien de découvrir comment étaient faits les anciens avions que les techniques les plus modernes avec les calculateurs, les ordinateurs de bord, on regarde, qui aident au pilotage. Et à un tel point qu'un avion peut pratiquement décoller et atterrir sans grande intervention du pilote. Je n'ai pas dit sans pilote, mais sans grande intervention du pilote. Voilà. Les deux sont passionnants. Et le but de notre association a cet avantage, c'est qu'on peut regarder les deux.
Et combien de temps vous faut-il pour fabriquer un avion de ligne ?
Tout dépend. En deux mots, si on prend la famille Airbus, puisque c'est celle qu'on connaît le mieux, vous avez de l'A320, qui est le petit avion, qui est le petit de la famille, jusqu'au 380. Le 320, aujourd'hui, on a livre, je pense, de mémoire, dans les 50 par mois. Alors, il suffit de dire, chaque mois, il sort 50 avions. Donc, ça donne un laps de temps. Par contre, le moment de lancer la fabrication de la première pièce pour arriver à la livraison de cet avion, je pense que c'est plusieurs mois.
Et dans le cas du Concorde ?
Alors là, c'était plusieurs années. Parce que, d'une part, c'était un avion totalement nouveau qui a nécessité un nombre d'essais incroyable. On n'a jamais fait autant d'essais. Il faut savoir qu'il y a eu 2 prototypes, 4 pré-séries, et ensuite a commencé la série. On connaît l'avion, on voit la dimension. Et puis, à chaque avion construit, il y avait des modifications. Puisque justement, le premier avait donné des informations et il fallait faire quelque chose de mieux, réparer certaines choses, améliorer. Je ne connais pas exactement la durée, mais c'était peut-être 2 ans. La première pièce était usinée et 2 ans après, l'avion volait.
Pour vous, quelle est la plus belle évolution de l'aviation et comment imaginez-vous l'avion de demain ?
Alors, l'avion de demain, j'ai participé à essayer de le concevoir. C'était un avion supersonique. C'est la suite du Concorde. On a fait 4 modèles, en partenariat aussi avec les Allemands et les Anglais, qui sont nos copartenaires. Hein. Mais comme c'était un avion supersonique, il n'a pas vu le jour. Quoi. Trop cher à rentabilité, les compagnies, ça a mis une croix. Quoi. Il fallait dire que l'objectif était haut placé, avion tout en carbone, 250 passagers. C'était difficile à concevoir, c'était en 94, ça, hein. 94, 95, c'était à cette époque-là difficile à imaginer. Mais pourquoi pas, un jour ou l'autre. Alors l'avion électrique, je ne sais pas quoi en dire, parce que celui qui a volé, avec Picard, là, voilà, avec des cellules photovoltaïques, il portait une personne. Un avion qui porte une personne, la rentabilité, c'est pas terrible. Donc, maintenant, bon, il y a d'autres systèmes, évidemment. Mais bon, c'est pas... Je le vois pas encore, ça.
L'IFAN, c'est une tentative d'Airbus qui a essayé, avec des batteries et 2 moteurs électriques, de le faire voler. Alors, il n'a pas essayé, il a réussi, puisque l'avion a volé, a fait un certain nombre d'essais. Mais ça n'a pas, il n'y a pas eu de suite à cet avion, à l'IFAN lui-même. Par contre, aujourd'hui, Airbus recherche, et ils se sont en train d'essayer d'explorer, des domaines de l'aide de la partie électrique pour aider à la propulsion. Alors, est-ce que demain, ils arriveront à faire un avion de transport avec ce genre de technologie ? Si je regarde l'évolution des ordinateurs les 5 ou 10 dernières années, il faut être modeste. C'est pas facile de savoir où on aboutira avec les technologies de batterie, de génération électrique et de moteur également, puisque tout y contribue. Voilà.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Avec plaisir.
Lors de notre visite d'Aéroscopia, le musée aéronautique de Toulouse-Blagnac, où nous avons découvert des avions d'exception, comme le Concorde, Super Guppy, Airbus A300 et bien d'autres, le groupe de 12 jeunes se sont amusés à réaliser un micro-trottoir afin de découvrir à quoi peut ressembler l'avion du futur pour les visiteurs de l'Aéroscopia.
Quel serait l'avion du futur ?
Alors pour moi, l'avion du futur, ce serait un avion qui utilise des énergies renouvelables, donc qui aurait aucun impact sur l'environnement et qui aurait des fins pacifistes et non pas pour être utilisé au niveau des guerres et des combats internationaux et dans le monde. Quoi.
D'accord. Mais est-ce que vous pensez, un avion ça consomme quand même beaucoup, donc est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'on n'utilise que des énergies renouvelables ?
Oui, je pense que ça doit être envisageable quand on voit les évolutions qui ont été faites au cours du temps au niveau de l'aviation. J'ai bon espoir qu'on arrive à avoir un avion propre, à condition d'avoir, les différents pays et les différents États qui investissent dans cet avenir-là. Quoi.
Pour vous, quel serait l'avion du futur ?
Quel sera l'avion du futur ? Je pense que ça sera un avion avec un toit panoramique, comme celui qu'on a vu à l'entrée du musée. Je vois l'avenir comme ça, et puis surtout qu'il soit connecté, c'est-à-dire qu'on puisse avoir Internet, téléphoner à l'intérieur. Je pense que ça, c'est l'avion de demain, oui.
À quoi pourrait ressembler l'avion du futur ?
L'avion du futur devra trouver un moyen, une énergie propre, Voilà, ça c'est l'enjeu de demain. Puisqu'aujourd'hui on parle de la pollution des voitures, mais pas suffisamment de celle des avions. Du trafic aérien devient de plus en plus important, très important. Donc ce sera l'enjeu pour moi, c'est d'avoir une énergie propre et toujours plus puissante et en termes d'autonomie.
D'accord. Vous pensez aussi que les avions polluent plus que les voitures en ce moment ?
Alors, c'est pas tout à fait comparable, mais si on ramène au nombre de passagers transportés ou de matériel, oui, je pense que aujourd'hui un avion dégage beaucoup de gaz à effet de serre.
Comment imaginez-vous l'avion de demain ?
Alors, j'imagine un avion électrique qui fait pas de bruit, de plus petite taille, parce qu'on va être un peu plus personnalisé. Et peut-être qu'à terme, on aura même un avion individuel ou pour une famille.
Pour vous, ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup d'avions dans le ciel en permanence ?
Peut-être, oui, par exemple. Il y a eu des films comme ça, hein, de science-fiction, mais pourquoi pas, si ça fonctionne. Et sans pilote, d'ailleurs, on n'a pas besoin de piloter. Ça décolle à la verticale, ça vous emmène à l'endroit où vous allez sans polluer, avec des matériaux ultra légers, beaucoup de clarté, et vraiment un outil un peu comme un drone, avec un mélange de drone, d'avion, et voilà.
Donc pour vous, l'avion de demain est forcément envisageable ?
Ah bah bien sûr, tous les jours on invente de nouvelles choses. Et tous les jours on découvre des nouvelles technologies qui permettent d'inventer ce qui sera l'avion de demain. L'avion d'aujourd'hui, il existe, mais il y a déjà des tas d'ingénieurs qui sont en train de penser à ce que sera l'avion de demain. Le moteur de demain, les ailes de demain, le pilotage de demain, etc.
Et est-ce qu'il ressemblera aux avions d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il... Il devra ressembler toujours avec le tronçon, les ailes. Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours tout ça ?
Ben non, pas forcément, puisque je disais tout à l'heure que ça pourrait être un avion qui était plus entre ce qui est aujourd'hui une voiture, donc pour 4-6 personnes, et un avion avec un monocouloir où peut y avoir 150 personnes. Donc ce sera un intermédiaire entre les deux. Il y aura peut-être des minibus qui volent, il y aura peut-être des voitures qui volent, voilà, qui décollent à la verticale et puis qui atterrissent sur l'eau, qui atterrissent sur la neige, qui atterrissent un peu partout sur la Terre.
Comment voyez-vous les avions du futur ?
Qui dépenseront moins de kérosène, qui pollueront moins.
L'énergie solaire ?
Peut-être l'énergie solaire. J'espère qu'on pourra voyager tout autour du monde en étant beaucoup plus safety for the planet.
Pour vous, à quoi pourraient ressembler les avions du futur ?
Je ne sais pas du tout. Je laisse les ingénieurs qui travaillent dedans penser pour nous et puis nous proposer ce qu'ils ont de mieux.
Comment imaginez-vous les avions du futur ?
Les avions du futur, c'est une vaste question, mais je pense qu'ils vont évoluer assez peu au niveau de la forme. Par contre, au niveau des usages, ils vont beaucoup se démocratiser et donc on aura besoin d'en avoir beaucoup plus. Et donc ça va être surtout les infrastructures qui vont poser problème.
J'imagine de l'avion du futur avec des matériaux plus légers, plus rigides et plus résistants.
L'avion du futur, un avion propre et électrique, voire solaire.
Oh, alors là, moi j'ai pas trop de compétences. Peut-être sans pilote, on verra.
Électrique.
Électrique.
L'avion du futur, il serait comment d'après vous ?
Pouh. C'est une question pas facile. Je pense que ça va être encore plus légère, probablement plus vite, peut-être plus grand. Parce que, ouais, je ne suis pas sûr de plus grand, parce qu'il est finalement déjà très grand, le A380. Probablement plus légère, moins de consommation, quelque chose comme ça. Bon, c'est ça.
Y a beaucoup de personnes qui disent aussi qu'il va plus vite, que moins de consommation. Donc en fait, vous êtes tous presque dans l'écologie et moins de consommation.
Oui, je pense. Je pense que c'est plus le futur que des avions encore plus grands, parce qu'ils sont déjà assez grands, je pense.
Alors là, je sais pas. Comment tu le verras ?
Un avion qui va dans l'espace ?
Ah oui, un avion écologique.
L'avion du futur, c'est quelque chose d'aérodynamique, quelque chose qui puisse aller très vite pour aller à un endroit le plus rapidement possible.
Oh. Bonne question. Je ne sais pas exactement. Il y a probablement avec... Il y a encore des développements à faire. Ça peut être... Peut-être tout à fait différent, il faut imaginer peut-être, je sais pas.
L'avion du futur, d'après vous, il serait comment ?
Oula ! L'avion du futur, il n'y aura pas d'avion du futur.
non ?
Non, je pense qu'on va se transporter, on va se démoléculariser et se transporter directement ailleurs. Se
télétransporter.
On va se télétransporter, voilà, ouais.
Et vous ?
Ouais, on aura tous des petites hélices, là, et puis vous, quoi.
Il sera comme un drone.
Ouais, un drone, ouais. Exactement.
Et vous ?
J'arrive avec moins voiture.
Parce que vous trouvez que les avions ne sont pas propres ?
Bah non, mais dans la logique, ça sera un avion électrique, j'imagine.
Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que c'est des avions électriques et propres, parce que moi aussi, je pense électrique, c'est mieux, mais propre, je comprends pas aussi.
Propre pour éviter de polluer et pour avoir des moyens de transport qui préservent l'environnement.
L'avion du futur, vous l'imaginez comment ?
Il n'aura plus la même forme, peut-être qu'il ressemblera à l'avion de X-Men. Et il aura des capteurs partout pour qu'on n'ait plus besoin des hublots et qu'on voit à l'extérieur. On verra le ciel, tout le paysage, comme si on était dehors.
Bien. Et vous ?
On aura de la place pour les jambes.
Ah, tu peux toujours rêver, quoi.
L'avion du futur, il serait comment d'après vous ?
L'avion du futur.
Complètement écologique.
Oui, j'ai pas trop d'idées.
Écologique pour moi.
Un avion électrique.
Bah aujourd'hui, si on pense à l'environnement, il faut qu'il soit forcément moins consommateur d'énergie fossile, avec des habitacles le plus agréables possible pour qu'on puisse profiter un maximum de cet espace.
D'accord. C'est très très bien. C'est pour l'écologie, vous pensez. C'est bien. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Merci, au revoir.
C'est un portrait chinois. Vous connaissez ?
Non, je connais pas.
C'est quand on essaye de se mettre à la place de quelque chose, d'un objet ou d'un animal, d'un pays. Vous voulez répondre ?
Ah, on va essayer. Allez, essayons, jeune homme.
Si vous étiez un objet, vous seriez ?
Un stylo.
Un téléphone.
Je serais un appareil photo.
Pourquoi ? Un appareil photo ?
C'est le seul moyen de capter l'image réelle, enfin de faire transcrire les sentiments à d'autres personnes.
Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ?
Je pense que je serais un chat.
Je serais un chiot.
Un oiseau.
Je serais un zèbre.
Un ver de terre.
Un chat.
Un chat.
Un hérisson.
Un hamster.
Et quelle est votre matière préférée au collège ou à l'école ?
Moi, c'est art plastique. Musique.
Art plastique.
L'SVT.
Les maths, parce que je suis compliqué.
Le sport.
Si vous étiez une couleur.
Rose, le doré,
le rouge bordeaux,
rose,
rouge,
vert.
Merci d'avoir répondu à ma question, au revoir.
De rien, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Cette émission a été réalisée par l'association Média Commun. Éduquer aux médias avec l'outil radio. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio ondescourtes.fr et sur mediacommun.fr. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Elle a été réalisée par l'association Média Commun. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.